Marceau, le midi. Avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
Et non, aujourd'hui, Yannick est en congé. Yannick revient la semaine prochaine, mardi, dans le show du matin, si vous voulez pas manquer cette bête de radio. Il va revenir tout feu, tout flamme. J'ai l'impression qu'il en profite. C'est un gars qui sait se reposer, qui sait prendre du temps pour lui. Fait que ça va être le fun de l'entendre dès mardi. J'ai l'impression qu'il aurait aimé, Max, être en onde aujourd'hui.
Pourquoi tu penses?
Le débat américain d'hier, il y en aurait eu à dire, parce que si on suit ses réseaux sociaux, il y en a eu à montrer, il y en a eu à commenter. C'est sûr que c'était assez exceptionnel ce qu'on a vu, puis pas nécessairement pour les bonnes raisons. J'ai l'impression qu'on abrutissait la population, qu'on abrutissait les téléspectateurs et qu'on abrutissait la politique en général avec un débat comme hier. En même temps, je m'en serais pas passée. Je pense que c'était évidemment essentiel, là. Tout le monde souhaitait un débat comme ça pour voir les aptitudes de Donald Trump, les aptitudes aussi de Joe Biden.
Mais là, c'est qui le meilleur au golf? Moi, depuis que je me suis réveillé à matin, c'est la question que je me pose, puis je me peux comme plus. C'est quand qu'on l'organise, le tournoi entre les deux?
C'était-tu gênant? Le grand moment d'obstinage entre les deux sur qui est le meilleur puis qui va remporter. Il y avait eu des règles qui avaient été mises en place pourtant, mais ça a dérapé, puis tout le monde est un peu dans le questionnement aujourd'hui à savoir... C'est-tu les bons candidats officiellement qui sont à la tête du Parti démocrate et républicain? Et surtout, est-ce que Joe Biden va être capable de finir la campagne? Honnêtement, il faut être lucide dans tout ça. Lui, il ne sent pas. Alors, on va aller explorer la situation puis surtout en jaser avec notre spécialiste, analyste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, qui est au bout du fil. Salut, Valérie.
Salut.
T'es sortie de tes vacances pour ça hier. Oui. Aujourd'hui, tu as une grosse journée. Le mot qui te vient en tête après le débat d'hier?
Catastrophique. Je pourrais dire horrible, pire scénario, et trouver tous les synonymes de tout ça pour les nommer, parce que c'était pénible aussi. Je pense que pénible serait finalement le mot que j'essaie de choisir.
C'est rare que je t'entends aussi découragé, parce que habituellement, oui. T'es pas découragé, t'es dans l'analyse vraiment, puis là, tu vas l'être avec nous ce midi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que t'es chargé, ça n'a pas de sens, mais découragé à ce point, puis j'entends le découragement autant pour toute l'image politique, pour la machine politique, pour les prochaines années et pour les candidats, non?
Oui, c'est ça, parce que c'est décourageant. Bon, si on commence par Biden, c'était le pire scénario qu'on pouvait avoir. Là. Les gens comptaient vraiment sur ce débat-là pour qu'il démontre de la fougue, de l'énergie, un peu comme on l'avait vu au discours sur l'État de l'Union en mars dernier, où il a été super bon. Hier, on n'avait pas ça. On n'avait pas de substance non plus. Si je me mets à la place d'un électeur, tu sais, Donald Trump dit beaucoup de faussetés. Peut-être qu'il y avait plus d'énergie, mais on n'avait pas non plus ce qu'on appelle du fact-checking. Donc, on vérifiait pas les faits. Il n'a pas répondu directement aux questions. Biden, au-delà de la forme, sur le fond, c'était difficile de parler de ses idées. Il y a plein de choses qui étaient très incohérentes, malheureusement. Alors, je me dis, je me réveille étant américain. Je me dis, non, je me mets dans la peau d'un Américain aujourd'hui, une Américaine. C'est triste que ça soit cette situation-là. Et c'est triste que je ne vois pas, je pense pas que je verrais de positif dans la soirée d'hier. Et ça reste que c'est une élection cruciale, importante, d'une des plus grandes démocraties de la planète, qui doit décider qui va diriger le pays pour les 4 prochaines années au mois de novembre. Là. C'est comme si c'était demain matin, là, dans un sens.
Et pourtant, on a vraiment essayé de mettre des règlements en place du côté de CNN. Pas de prompteur, pas de discussion avec l'équipe pendant les pauses, pas de débat solo, du moins c'est ce qu'on souhaitait pas qu'il arrive, soit les deux qui s'adressent uniquement aux téléspectateurs qui sont pas capables d'avoir des discussions ensemble pour peut-être argumenter sur certains enjeux. Jeu ou certaines priorités, on a essayé de faire en sorte que ça tourne pas comme hier, puis on est tombé dans le panier malgré tout. Est-ce que c'est la faute des deux personnages politiques?
Bien, premièrement, le format, normalement, était à l'avantage de Joe Biden, parce qu'on avait demandé de pas d'avoir de public, parce que Trump, bon, on se nourrit souvent de ça. Biden, il est meilleur quand dans un autre contexte. Les micros qui sont fermés, normalement, c'était aussi à l'avantage de Biden d'avoir les micros qui ferment lorsqu'on est en train de parler. Parce que là, on n'est pas interrompu, on peut avoir le fil d'idées, on peut présenter ses idées sans avoir, par exemple, Donald Trump qui dit « Non, c'est pas vrai ». Mais cet élément-là a été positif pour Trump parce qu'il était plus en contrôle. Il était moins en train d'obstiner Biden surtout. Il a eu l'air plus, je veux dire, un peu présidentiel que dans beaucoup d'autres débats au niveau de la forme. Et oui, on s'est mis à parler dans un peu dans tous les sens. Et ce qui est dommage, c'est que je trouve que les modérateurs ont été très bons par moment, mais pour d'autres moments, on ramenait pas les deux candidats sur le sujet. Je donne l'exemple, on a demandé à Trump les enfants, l'aide aux enfants, tout ça, qu'est-ce qu'on devrait faire. Il répond finalement, Biden est le pire président de l'histoire, c'est un désastre qui revient à la présidence. On répond pas directement à la question. J'ai trouvé qu'on talonnait pas assez les candidats. Alors, ce format-là a été difficile aussi pour le débat d'idées. Je sais pas si on aurait réussi à en avoir un dans un autre format, mais on n'a pas débattu tant que ça. Alors, il n'y avait pas de réplique à chaque fois aussi là, qui était présenté de part et d'autre.
Est-ce qu'on aurait dû refuser ce débat-là? Parce qu'officiellement, Joe Biden avait dit « Amène-toi à Trump, amène-toi, on va le faire le débat. » Bon, tout le monde connaît un peu ses troubles cognitifs. Est-ce que c'était une bonne idée? Ben, clairement, avec ce qu'on a eu hier comme spectacle, la réponse était non. Pour Donald Trump, ça n'a pas été nécessairement un succès non plus parce qu'effectivement, pour répondre à certaines questions, des fois, on n'avait pas la réponse exacte. Est-ce qu'on aurait dû ne pas en faire en même temps? Est-ce qu'il faut s'adapter à ceux qui représentent les deux partis? Si jamais ils sont pas assez forts pour faire un débat, on est-tu vraiment rendu là?
Non, c'est ça. Il faut pas faire ça. Puis, mais ils sont pas obligés de participer à des débats. Là, ils peuvent refuser. Donald Trump, même si sur le fond, c'est à mon avis très faible comme performance, il ressort quand même gagnant aujourd'hui parce qu'on parle de quoi? On parle de la performance de Biden. Alors pour lui, c'était une excellente nouvelle de faire ce débat-là. Honnêtement, là, je disais à la blague aujourd'hui, si j'étais Donald Trump, je sortirais le champagne. Il ne boit pas d'alcool, alors le Pepsi Diet, je pense que c'est ça que Donald Trump boit là, pour célébrer. Mais blague à part, là, c'est vraiment une très bonne journée pour lui aujourd'hui parce qu'on ne parle que de Biden et de sa performance. Et Biden aurait dû peut-être refuser le faire plus tard, mais en même temps, Biden a eu des moments forts. Là. On peut pas dire qu'il est toujours comme ça. Moi, je suis pas du tout de cette école-là de dire que Biden est faible à chaque fois qu'il y a des performances. Mais tu es candidat à la présidence. Tu dois être président pendant 4 ans. Alors là, il y a des questions sérieuses qui se posent sur son avenir politique, des questions que moi, je me posais pas, par exemple, il y a 2 semaines. Et qu'il y a bien des gens qui se posaient pas nécessairement. Oui, c'est dans le derrière de notre tête, mais pas de façon sérieuse comme aujourd'hui. Non.
Mais c'est ça, parce que ce matin, tout ce qu'on voit un peu partout, en tout cas, je parle personnellement, j'imagine que ça peut représenter du moins une bonne portion d'individus, c'est des moments où Joe Biden a l'air complètement mêlé, où quand il parle, soit on comprend pas trop où il va avec ses idées, soit on a de la misère à même comprendre qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que du côté des Américains, c'est ça aussi qui ressort ce matin, de se dire, OK, le gars est mêlé raide, puis t'sais, non seulement c'est peut-être le futur président, c'est le président en ce moment. Ce gars-là est supposé être un des hommes les plus puissants de la planète en ce moment. Il y a de la misère à enligner 2 phrases.
Est-ce qu'on lui demande de partir?
Mais c'est ça. Est-ce que lui va partir par lui-même? Parce que Biden, je vais le dire, là, et c'est pas une question de couleur politique, pour moi, est un bon président au niveau législatif. Sincèrement, là, il y a plein de choses qui sont passées, l'Inflation Reduction Act, des projets de loi sur les infrastructures, il y a même un projet de loi historique sur les armes à feu qui n'avait pas été vu depuis 30 ans, là, de faire quelque chose avec bipartisan avec les républicains. Mais on parle pas de ça parce que, oui, ça entoure peut-être des bonnes personnes, mais lui, comme individu, et là, c'est l'individu qui est important, le candidat, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il va, lui, abandonner? On dit que les gens autour de lui font beaucoup de pression. Et oui, dans les unes de journaux aux États-Unis, c'est la même chose qu'on voit. Là, j'ai le même sentiment en lisant les articles. Et j'écoutais un podcast d'anciens conseillers de Barack Obama dans l'administration où Biden était. C'est leur ami, Joe Biden. Il disait, il faut sincèrement penser à un plan B. Il n'y a pas de... Après ce qui s'est passé hier, c'est vraiment à ce point-là. Mais là, quel est le plan B? Si Biden abandonne la convention, c'est à la fin du mois d'août, il y a, oui, un mécanisme en place pour peut-être nommer quelqu'un, ce qu'on appelle un open convention, donc que les gens peuvent voter pour un candidat, il peut avoir plusieurs tours. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est Kamala Harris? Elle est encore moins populaire que Biden. Si c'est pas Kamala Harris, c'est qui va être le candidat potentiel à la vice-présidence aussi, parce qu'il faut remplacer tout ça. Ça devient une espèce de guerre interne au sein de la famille démocrate, et ça aussi, ça peut nuire. Alors, il n'y a pas en ce moment, de scénario heureux pour les démocrates, car normalement, Donald Trump est un candidat qui est tellement détesté par une grande partie de la population, qui a été condamné au criminel. Dans un autre contexte, il serait facile à battre, ou du moins plus facile à battre, tandis qu'on se réveille ce matin en se disant, peut-être que c'est Donald Trump qui va l'emporter avec avec la performance de Biden.
Et là, dans le contexte géopolitique actuel, il y a quand même quelque chose d'inquiétant qui est déjà dans l'engrenage parce que Max l'a très bien dit, on sait aussi que les États-Unis, ça a été longtemps la plus grande puissance mondiale. Ce l'est encore à quelques détails près, par contre, et des gens qui poussent fort dans le dos des États-Unis pour prendre la place, là. Mais est-ce qu'on va voir, selon toi, je sais que c'est une grosse question, dans les prochaines années, un démantèlement de cette puissance américaine-là?
Moi, je n'y crois pas à ce déclin de l'Empire américain, là, pour reprendre, oui. reprendre l'expression. Je pense que les pays s'organisent sans les États-Unis. Ils ont appris, par exemple, avec Trump, qu'il n'y avait pas les mêmes alliés, disons, naturels, se rapprochaient plus de dictateurs ou n'étaient pas... à serrer les mains de toutes les politiciens européens comme par le passé. Tout ça, il y a un changement qui s'organise. Les gens ont dû s'organiser sans l'appui des États-Unis à certains niveaux. Dans les organisations internationales, on voit que ça fonctionne pas nécessairement toujours bien. Alors oui, il y a des changements qui se font. Oui, l'étoile américaine ne brille pas comme avant. Je pense pas, par contre, que c'est un joueur à mettre de côté. C'est tellement un joueur important. C'est la monnaie qui est utilisée partout pour évaluer l'économie, c'est la monnaie américaine. Ça reste qu'il est extrêmement influent. L'OTAN ne fonctionnerait pas sans l'appui des Américains. Alors, il y a plein de choses comme ça, des alliés à travers la planète, des ententes de libre-échange. Donc, la puissance américaine va rester. C'est juste que des joueurs comme la Chine, l'Inde et l'Union européenne vont essayer de tailler avoir une place différente dans l'échiquier mondial. Mais je crois pas que non, ça s'effrite. La réputation américaine, par contre, ça va pas super bien. Que ce soit au lendemain du 6 janvier 2021, quand il y a eu l'assaut du Capitole, la démocratie américaine est un peu mise à mal. Là, on s'entend, là, l'image était pas très belle à l'international. Et là, avec Biden, il y a des dirigeants qui vont se dire « Oh, OK, qu'est-ce qui va se passer? » Là, il y a de l'instabilité et ça, c'est pas bon dans un contexte géopolitique assez difficile.
Mais dans l'image, justement, j'ai l'impression d'entendre certains discours parfois qui est de ne pas capitaliser sur ce qu'on répand dans les nouvelles par rapport à la mauvaise image de Joe Biden, autant chez les républicains que les démocrates, parce qu'ils veulent pas affaiblir en ce moment cette vision-là à l'international qu'on a des États-Unis, même si peut-être on est républicain et non démocrate.
Mais à part, Donald Trump lui va dire qu'on est une honte, je parle comme si j'étais américaine, oui. Mais j'ai l'impression que c'est mon pays d'adoption, mais que les États-Unis sont la risée avec Biden, c'est pas ça la réalité. Les Américains veulent encore avoir une place, comme tu l'as dit, et les Républicains veulent que les États-Unis gardent cette place. Qu'elle soit différente, parce que, par exemple, l'Ukraine, on s'entend pas sur comment on continue d'aider ce pays-là, mais on veut continuer quand même d'avoir notre mot à dire dans ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Les Républicains veulent continuer cet appui à Israël. On veut se mêler de ce qui se passe en Chine avec Taïwan. Donc, oui, il y a cette idée qu'on veut garder ce statut de puissance mondiale respecté à l'international, mais les gens disent que la position de Joe Biden, par contre, affaiblit un peu l'image américaine.
Mais justement, si on prend pour acquis que Joe Biden sera le candidat pour les prochaines élections parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options, comment il peut se relever de l'image qu'il a projetée hier? Est-ce possible? Parce que moi, j'ai l'impression que les vidéos qu'on a vues hier, les extraits qu'on a un matin, ça va s'utiliser jusqu'aux élections, là.
Ah oui, c'est un cadeau pour les Républicains. Et je vais répondre en deux temps à ta question. Premièrement, les extraits sont des extraits pour une fois qui sont représentatifs. Parce que d'habitude, les Républicains vont prendre un petit clip de Biden et là, il a l'air perdu, mais quand tu regardes l'ensemble, c'est pas du tout ça les circonstances. Là. Mais là, je peux pas mettre la faute sur personne parce que les clips, peu importe comment on les coupe, qu'on les prend, Biden était faible au niveau de son allocution, sa présentation, des phrases qui se terminaient même pas. Alors ça, c'est la première des choses. Pour la deuxième, mon Dieu, écoute, on est en lendemain de vacances, je me rappelle même plus ce que j'allais dire. Alors ça, c'est la joie du direct. Mais oui, mais
est-ce qu'il peut s'en remettre de ça, Joe Biden?
Ah oui, voilà. Alors s'il peut s'en remettre, oui, parce que quand t'es démocrate, tu veux voter démocrate, peu importe qui t'es là. Alors il y a quand même cet engouement qui va rester. Mais l'autre point, c'est de dire, il faudrait qu'il soit solide. S'il y a d'autres débats, il faut qu'il soit solide dans ses annonces, solide dans toutes ses apparitions sur la campagne dans les prochains mois, avoir un appui du Parti démocrate indéfectible, c'est vraiment la seule solution.
Oui, je trouve ça absolument ahurissant de voir les États-Unis avec un débat tel que celui qu'on a eu hier sur les ondes de CNN. Un autre de prévu, est-ce que tu penses qu'on va l'annuler?
Moi, je pense que Donald Trump ne devrait pas faire le prochain débat si c'était stratège. Pour que les gens aient juste l'image de Joe Biden du débat d'hier. sais, s'il veut faire vraiment la bonne chose, peut-être que ce serait bien qu'il redébatte avec Biden, mais peut-être qu'il n'y en aura même pas de débat. Ça se peut que ce soit le seul qu'on voit dans la campagne.
Merci beaucoup, Valérie Beaudoin, analyste de la politique américaine, pour ce temps d'antenne-là. Puis c'est sûr qu'on te rappelle, rendu là, on n'a pas fini avec Joe Biden
non,
et Donald Trump.
Pas du tout.
Bonne fin de journée. C'est tout ce que tu mérites, Valérie.
Merci.
Hey, ça, là, ça va tellement être à surveiller. Moi, ça me fascine. Puis même au Canada, tu sais, en ce moment, il y a des gens qui demandent la démission de Justin Trudeau. Je ne sais pas si tu as vu dans les nouvelles, là, mais l'ex-ministre libérale Catherine McKenna qui a demandé à Justin Trudeau de partir tout simplement. Elle était ministre fédérale de l'Environnement. Puis c'est la première libérale qui demande là, le départ concret de Justin Trudeau après la défaite. Assez surprise, la défaite libérale dans l'élection partielle de Toronto s'impose le 24 juin dernier parce que c'était un comté finalement qui appartenait aux libéraux depuis plusieurs années, là. Mais elle dit qu'ils ont besoin d'un nouveau chef, que Justin Trudeau doit céder sa place. C'est une allocution qui a l'air de rien, mais qui est quand même importante. Quand t'es libéral, de t'attaquer comme ça à celui qui représente le parti, c'est pas rien.
Ça, puis il y en a plusieurs qui l'ont fait sous le couvert de l'anonymat, de le faire avec ton nom publiquement, sinon ta affaire aussi, mais déjà on le voyait, c'est Radio-Canada, entre autres, là, qui est au lendemain de la défaite dans Toronto St. Paul's, discutait avec des libéraux, puis il y en a pas mal qui disaient, ben là, soit va falloir qu'ils pensent à partir, soit va falloir qu'ils pensent à un remaniement, ou faut qu'ils fassent quelque chose du moins, mais il était une coupe à dire qu'il fallait qu'ils pensent à peut-être faire comme son père puis partir.
Ah, puis tu sais, je sais pas, au provincial, avec François Legault, tu sais, il y a tellement eu de déboires, de rififi, de mésententes aussi au sein même du parti. À un moment donné, on sentait que c'était possible de faire un putsch. On se comprend, ça se passe pas, ça, au Québec, un putsch. Il y a personne qui va, dans plusieurs situations, prendre les armes, là, dans d'autres pays, quand on fait un putsch, pour tasser celui qui est en place et qui gouverne. Mais quand même, on a vu des députés extrêmement déçus, même des ministres extrêmement déçus de leur premier ministre dans certaines décisions qui ont été prises, l'annulation du troisième lien, entre autres. Là, je veux dire, ça a été une grosse période de politique pendant cette année-ci. Puis c'est plus nécessairement la cohésion qu'on a vue au sein de la CAQ là, dans le premier mandat. Là, on est ailleurs. Est-ce que ça se discute, ça aussi, dans les rangs? Hier, on avait Éric Duhaime à l'émission ici, dans Marceau le midi en vacances, puis il disait, ben moi, je parle avec tout le monde, puis oui, j'ai parlé avec des gens à l'intérieur de la CAQ, au sein de la CAQ. Encore là, il nous dit, tu sais, je veux dire, est-ce un langage politique? Peut-être, mais j'ai l'impression que tout le monde se parle pour vrai, là.
Ben oui.
Est-ce qu'il y en a qui voudraient, au sein même du parti de la CAQ, un genre de push-push, on tasse François Legault, puis
on met quelqu'un d'autre? Il y en a peut-être qui tentent de voir si François Legault va se représenter pour vrai, parce qu'il n'arrête pas de dire que oui, mais est-ce que ça, c'est politique aussi pour le dire, mais
garder
plus
une colonne
tôt. Plus,
aussi,
Justin Trudeau, lui, je pense que, en tout cas, de ce qu'on comprend, il a vraiment l'intention de rester, puis il pense qu'il y a encore un travail à faire, puis il pense qu'il peut encore faire le poids face aux conservateurs. Est-ce qu'en regardant les sondages, puis le résultat de la partielle, c'est peut-être dur à comprendre un petit peu, là, mais il semble penser qu'il y a encore une chance, puis il semble assez clair à l'effet qu'il ne quittera pas.
Il y a des gens qui ont voté libéraux toute leur vie qui doutent eux-mêmes, un peu ce qui se passe aux États-Unis. T'sais, pour faire le lien puis revenir boucler la boucle là-dessus, il y a des orphelins politiques à grandeur du pays. Il y a des orphelins politiques aux États-Unis qui veulent voter pour le parti. T'sais, Valérie Beaudoin l'a très bien dit. C'est pas Joe Biden qui va faire en sorte que les gens vont aller aux urnes puis cocher le petit nom à côté des démocrates en ce moment. C'est vraiment le parti, la structure, les idées, les enjeux, ce qui est argumenté, ce qui est présenté, qui va sauver probablement le parti en question. C'est pas Joe Biden, le leader de tout ça. C'est le mot « démocrate » sur le petit feuillet, le petit papier. T'sais, tandis que du côté républicain, il y en a quand même beaucoup qui adhèrent à Donald Trump. Certains ont décroché aussi. Donc, beaucoup d'orphelins politiques partout en Amérique. Là. Tu le vois, des anciens libéraux au fédéral, que c'est une conception complète politique à l'intérieur d'eux qui font « Hein? Je ne reconnais plus mon parti, je ne fais plus confiance à Justin Trudeau. Vers qui je vais me tourner aux prochaines élections? » Parce qu'on a un peu ce genre de deux partis-là. On a plus au Canada qui se présente. Mais est-ce qu'on a vraiment de l'option? Si on souhaite remonter tout ce qu'on a à remonter, on est orphelins, nous aussi. Quand je pose la question au 88-971-1021 ou encore sur twitch.tv/belvd.fm, il y en a plein qui se disent « je sais pas quoi faire ». J'ai pas vu ça beaucoup dans les dernières années. Au contraire, je voyais des débats assez houleux, là.
Puis comme tu dis, on est déjà, entre guillemets, plus chanceux que les États-Unis parce qu'eux autres, ben c'est un ou l'autre, c'est démocrate ou républicain. Ici, tu peux quand même te rapprocher souvent de quelque chose. Tu peux être cynique puis dire qu'il n'y a rien qui te ressemble puis que tu préfères pas voter, puis ça se défend, tu as le droit. Là.
Les Québécois vont souvent voter bloc par définition comme deuxième choix si jamais ils se retrouvent pas là-dedans. Même
au fédéral,
si,
ouais. Provincial.
Bon. Là, c'est plus difficile. Aux prochaines élections, ça va être plus difficile. Là.
Ben, provincial, c'est parce qu'à base, si tu es un vrai de vrai souverainiste, t'as pas mal juste le PQ. Bon, je comprends que Québec solidaire, théoriquement, est souverainiste.
Le PQ est souvent, selon les analystes, entre autres Philippe Dubois, là, qui est professeur en communication publique et politique, il avait amené un sondage PQ qui est souvent le deuxième choix aussi pour les Québécois.
Ben
mais encore là, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait branler les murs de la cabane en affirmant, mais de façon transparente et honnête, on lui donne là, le fait qu'il voulait reparler de souveraineté.
Ah, puis
si
lui, il va le faire, puis j'ai hâte de voir si on va le faire encore à la prochaine campagne électorale. Quand on va se rendre compte que ça nous fait peut-être plus de mal que de bien, mais il a l'air crédible quand il dit que non, moi j'en fais un référendum, puis si vous votez pour le Parti québécois, vous votez pour faire un référendum.
Finalement, votez Maxime Larouche.